psaume donc du repentir, du retour vers Dieu, de la conversion à Dieu, et qui fait suite à la présentation que j'avais faite ici de la faute de David. Et donc à ce récit qu'on trouve dans le livre de Samuel, eh bien, correspond dans le livre des psaumes, ce psaume 51, donc, qui se trouve au premier tiers, puisqu'il y a 150 psaumes. Et ce psaume est intégré dans la liturgie juive, celle de Kippour. Évidemment, Kippour, le jour du pardon, le jour des expiations, Yom HaKippourim, et c'est ce psaume en particulier, il y en a d'autres, mais en particulier ce psaume intégré dans notre liturgie. Je veux dire également que c'est le psaume qui est récité le soir avant de se coucher. C'est-à-dire que le juif ou la juive pieux qui confie son âme à Dieu avant de se coucher, récite le schéma Israël, la proclamation de l'unité de Dieu, et récite ce psaume. Il y a d'autres textes, mais d'autres textes qui sont d'inspiration rabbinique, où avant de se coucher, on pardonne tous ceux qui nous ont offensés, pour dormir tranquille et pour que d'autres dorment tranquillement également. Voilà, et donc ce psaume est relativement court par rapport à d'autres, il y a 21 versets, et donc il se réfère par son entête, par son titre, à la faute de David, donc avec Bathsheba, Bethsabée, lorsque le mari de cette femme, Uri, on avait parlé, le Hittite, donc avait été finalement assassiné de manière indirecte par David. Alors je rappelle les références, c'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et au chapitre 12, où il est fait mention à la fois de cette faute de David et en même temps de la venue du prophète Nathan, qui est venu à travers d'abord la parabole faire la réprimande ou renvoyer David à sa faute. Et à la suite de ça, David dit: « J'ai fauté contre le Seigneur, Hatati l'Adonai. » Alors, une petite remarque que je n'avais pas mentionnée la dernière fois, c'est en fait en préparant le psaume que je suis rappelé de cela, c'est que ce récit de la faute de David n'est pas mentionné dans le livre récapitulatif qu'on appelle en hébreu « Divrei Yamim », les paroles des jours, ou le livre des chroniques, qui se divise en deux, chronique 1, chronique 2. Dans le livre des chroniques, le rédacteur ou les rédacteurs se sont bornés à raconter uniquement la prise donc, de cette ville de Rabba et comment la couronne du roi de Rabba, qui s'appelle Amnon, donc, a été placée sur la tête du roi David. Donc, c'est dans le premier livre des chroniques, au chapitre 20, alors que dans le livre de Samuel, il est fait mention de cette faute. Alors on pourrait dire, on ne parle pas souvent du livre des chroniques, parce que bon, c'est vrai que c'est un livre assez... genre barbatif, on dit voilà un tel engendré un tel, un engendré un tel, etc. Il y a quelques récits qui sont mentionnés, mais l'état d'esprit est différent dans le livre des chroniques, d'abord qui est le dernier livre, pour dire canonisé en tout cas dans la chronologie, c'est celui qui apparaît en dernier, qui clôture donc la Bible, enfin la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, la Première Alliance. Et l'esprit donc du chroniqueur n'est pas le même que celui qui rédige le livre de Samuel. Le livre des chroniques s'attache à la succession des grands événements afin d'offrir une sorte de cadastre, une sorte de mémoire chronologique au peuple d'Israël qui retourne en Judée avec la bénédiction de Cyrus, qui retourne en Judée pour construire le deuxième temple et reconstruire Jérusalem. Alors que le livre de Samuel présente le déroulement de l'histoire suivant les réalités humaines, c'est-à-dire en s'attachant à la psychologie des personnages qui vivent cette histoire, qui la réalisent. pourrait dire le livre des chroniques, c'est surtout le livre des événements, alors que le livre de Samuel, le livre des et ensuite des rois, est davantage le livre des hommes plutôt que des événements. Dans le livre des chroniques, donc, c'est l'événement qui est important, alors que dans le livre de Samuel et dans les autres livres historiques, c'est l'homme avec sa grandeur et ses faiblesses. Et on pourrait dire que du point de vue de la foi, c'est ce deuxième aspect qui est retenu, en même temps qu'il y a donc cette dimension historique, comme parlerait un historien, pour constituer une mémoire pour le peuple d'Israël. Pour le dire autrement, les chroniques s'occupent de la vie extérieure et Samuel en particulier s'occupe de la vie intérieure. Alors, deuxième remarque, l'écriture, le Micra, la Bible, ne ménage pas le roi David, comme d'ailleurs elle n'épargne aucun des personnages de la Bible, ni Abraham, dans ses failles, par exemple le récit avec Ismaël, Jacob ou Moïse qui n'entrera pas en terre promise. Donc du point de vue de la Bible, l'homme peut être grand, peut être prophète, mais il reste un homme. C'est la caractéristique de l'ensemble de livres de la Bible, c'est de décrire l'homme, comme je l'ai dit, dans sa grandeur et dans ses failles, dans sa part lumineuse et sa part obscure. L'homme est ainsi fait selon la volonté du Créateur qui a créé un être en partage entre le bien et le mal, entre l'obéissance au Créateur et la désobéissance. L'homme n'est ni un ange, ni un animal. Il n'est ni tout à fait bon et lumineux, comme les anges qui proclament par exemple la sainteté de Dieu dans la Kedusha, le Sanctus du chapitre 6 d'Isaïe, ni un animal qui est seulement voué à ses instincts. Mais cette particularité de l'homme d'être partagé entre le bien et le mal, qui fait que l'homme peut s'élever, mais aussi chuter, mais aussi se reprendre. On pourrait dire que donc que la liberté de l'homme constitue, pour l'ensemble de la Bible, le pari de Dieu sur cet être imparfait, mais qui peut se parfaire. Pour autant, c'est au cœur de la dissimulation de la faute que l'Éternel va révéler aux yeux de tous, c'est-à-dire tous les lecteurs que nous sommes, en même temps que le peuple d'Israël, contemporain de David, le sombre projet de David, selon le verset que nous avions cité en 2 Samuel 12:12, « Tu as agi en secret, mais moi je ferai apparaître cela en plein jour. » Donc on ne peut pas se cacher de Dieu, qui sont les reins et les cœurs. On pourrait se cacher au tréfonds de la terre et Dieu serait encore là. Mais la leçon de réprimande, ça c'est une leçon je crois générale pour l'ensemble du prophétisme, c'est que la dénonciation de la faute vise toujours un salut, c'est-à-dire une prise de conscience et une décision de revenir vers Dieu. Et Dieu, miséricordieux, pardonne la faute. David, donc, comme nous l'avons étudié, s'humiliera devant le Seigneur. Le fils issu de cette union interdite mourra. Et ainsi, tout Israël sera témoin qu'aux yeux de Dieu, il n'existe nul passe-droit et chacun est jugé selon ses bonnes ou ses mauvaises actions, comme l'enseignera par exemple Ézéchiel au chapitre 18. On pourrait dire le roi Messie a fauté, David, mais le roi Messie a reconnu sa faute. Ce récit nous apprend que le mal surgit toujours de l'oubli du grand principe qui gouverne l'univers, la loi de Dieu. Dieu a établi des règles, aussi bien pour la nature que au sein de la société humaine. N'oublions pas que le masculin se dit en hébreu « zahar », le masculin, le mâle, mais qui renvoie aussi au souvenir. Comme si en créant l'homme, d'abord le masculin, eh bien, il lui donne cette part de mémoire. Le féminin, Nekeva, qui envoie à l'ouverture, renvoie à l'avenir. Il y aurait ici une complémentarité entre l'homme et la femme, mais l'homme, idéalement, a la mémoire, mais il peut oublier. Et peut-être que cet oubli au plan moral cache toujours l'intention d'occulter la loi de Dieu. On préfère oublier nos responsabilités, oublier que c'est interdit ou que j'ai des devoirs à accomplir, fermer les yeux et en disant « j'ai oublié ». Mais ce même récit nous apprend aussi que le vrai repentir efface toutes les transgressions, quelle qu'en soit la gravité. Il suffit de se repentir avec un cœur sincère. Ainsi, le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui pardonne. Et on comprendra pourquoi ce psaume a été choisi pour la liturgie de Kippour, puisque c'est le thème central de ce qu'on appelle les 10 jours du repentir, Aseret Yemei Teshuva en hébreu, qui vont de Rosh Hashanah, la tête de l'année, le nouvel an juif, qu'on célèbre en général en septembre, jusqu'à Kippour. En général, dans la liturgie d'Israël, nous disons qu'à Rosh Hashanah, Dieu nous juge, et à Kippour, Yom HaKippourim, Dieu nous pardonne. Et qu'entre ce jour du jugement et de pardon, eh bien, il nous est demandé de faire une introspection morale, religieuse, spirituelle, revenir vers Dieu et corriger nos fautes vis-à-vis de notre prochain, nous réconcilier avec notre prochain. L'homme peut oublier la loi divine, il peut s'oublier lui-même dans la satisfaction de ses désirs, mais il peut aussi se réveiller ou être réveillé par un guide, par un compagnon, par un maître. Ici, c'est le prophète Nathan, qui sera mentionné au début de ce psaume. Et David, placé enfin face à sa propre vérité, il ne peut pas mentir devant Dieu, prononcera ces deux mots, « Hatati l'Adonai », « J'ai fauté contre l'Éternel ». En hébreu, deux mots, « Hatati l'Adonai ». Il n'est pas nécessaire devant Dieu de multiplier les prières, deux mots, « Hatati l'Adonai », s'ils sont dits d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Alors écoutons à présent ce psaume 51 que vous avez, je vais le lire simplement pour s'en imprégner. On s'est inspiré de la traduction du rabbinat, j'ai essayé de faire quelques petites corrections. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan fut venu vers lui, David, lorsqu'il est venu avec Bethsabée. Alors les intertitres sont de moi. Fais-moi grâce, ô Dieu, Elohim, selon ta bonté, selon la grandeur de tes miséricordes. Efface mes forfaits. Lave-moi à grandes eaux de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes forfaits et mon péché est sans cesse face à moi. Contre toi seul j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ainsi tu seras juste dans ta parole ou dans ton verdict. Tu seras droit dans ton jugement. Certes, ou en vérité, en hébreu, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. La demande de pardon. Certes, en vérité, tu désires la vérité dans les reins. Dans mon fort intime, tu m'enseignes la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Fais-moi entendre des accents d'allégresse et de joie. Ils se réjouiront les eaux que tu as broyées. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître dans mon sein un esprit droit ou un souffle droit. Ne me rejette pas devant ta face, ne me retire pas ta sainte inspiration. Rends-moi la pleine joie de ton secours et soutiens-moi avec ton esprit magnanime. Enseigner les vertus de Dieu. Je voudrais enseigner tes voies aux pécheurs, afin que les coupables reviennent à toi. Préserve-moi, ô Dieu, Dieu de mon salut, d'un arrêt sanglant. Ma langue célébrera ton équité. Seigneur, donc ici Adonai en hébreu, c'est-à-dire le mot qui veut dire Seigneur, et non pas le tétragramme. Ouvre mes lèvres, et ma bouche racontera tes louanges. Car tu ne souhaites pas le sacrifice, que je donnerais si tu me le demandais, tu ne veux pas l'holocauste. Le sacrifice agréable à Dieu, le texte est le sacrifice de Dieu, sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit contrit, brisé, un cœur brisé et abattu, Dieu ne le dédaigne point. Conclusion, dans ta bienveillance, daigne restaurer Sion, rebâtir les murailles de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices pieux, holocaustes et offrandes parfaites, alors on présentera des taureaux sur ton autel. Voilà, donc 21 versets que l'on peut ainsi décomposer. D'abord donc le titre, c'est-à-dire le premier et le deuxième verset, qui situe à la fois la mélopée, le type mélodique, et également, ce n'est pas le cas pour tous les psaumes, mais parfois les psaumes situent le fait historique qui le fonde, quand... par exemple, David s'est retrouvé chez Abimélec et d'autres éléments historiques qui peuvent être mentionnés. Ensuite, nous avons une confession, ce qu'on appelle en hébreu le vidouï pé, le fait de dire, d'exprimer de sa bouche la faute, c'est-à-dire justement de ne pas cacher à soi-même la vérité de ses actes ou de ses paroles ou de ses pensées. Les rabbins utilisent la formule « fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de le penser, de dire qu'on a mal agi, mais de le dire. Alors, il suffit de le dire à soi-même. Ça n'empêche qu'on pourrait le dire à quelqu'un. On pourrait le dire à un maître, à un prophète, à un guide. Bien que la confession, au sens chrétien, catholique, n'existe pas dans le judaïsme, il n'y a pas de confessionnal, mais on peut très bien dire sa faute à quelqu'un. Mais les rabbins disent « fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche ». Et ensuite, donc c'est la confession, ensuite la demande de pardon, c'est-à-dire qu'une fois que la faute est énoncée, ou les fautes sont énoncées, eh bien on demande que toutes ces fautes qui ont été énoncées, soit effacé, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut effacer les fautes. C'est-à-dire que l'homme peut, le plus loin que l'homme puisse aller, c'est de dire le mal qu'il a causé, soit vis-à-vis de Dieu, il a fauté par rapport à Dieu, il a fauté par rapport à son prochain, et il va jusqu'aux limites de la reconnaissance de la faute. Mais c'est Dieu qui pardonne, qui efface la faute, comme si elle n'existait pas. Et troisième moment, et donc il y a une logique dans l'écriture de ce psaume, troisième moment, c'est que celui qui est pardonné par Dieu, et qui le ressent comme une joie profonde, la joie de se savoir pardonné par Dieu, eh bien fait qu'il a envie d'enseigner le chemin de Dieu autour de lui. Peut-être aussi pour redonner du courage à ceux qui sont dans la faute, ou bien pour faire sortir de l'obscurité ceux qui sont tombés, justement, dans les fautes, dans le mal. Et puis nous avons une conclusion qui peut paraître étonnante parce qu'elle semble dire le contraire de ce qui est mentionné à la fin de la troisième partie, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas de sacrifice, et juste après, le psalmiste, ici, demande de restaurer Sion, de rebâtir Jérusalem pour offrir des sacrifices. Bon. Alors, déjà sur le plan critique et historique, la plupart des commentateurs, même les rabbins eux-mêmes, disent bon, il s'agit ici, à la fin, bien sûr, d'un rajout. Donc la forme définitive de ce psaume a été composée sans doute pendant l'exil de Babylone, ou bien au moment du retour de l'exil de Babylone, mais plus certainement dans le temps de l'exil, où la Bible a trouvé sa forme la plus définitive. Et à ce moment-là, il y a une sorte de nostalgie, comme on trouve dans le psaume 137, « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. » Voilà. Et donc, il y a ce rajout de l'espérance de retour à Jérusalem, du retour à Sion, et un retour au culte sacrificiel. Bon, on essaiera de voir aussi s'il y a contradiction, ou bien comment entendre ce que dit la troisième partie, et cette conclusion. Voilà, donc c'est un psaume qui est relativement bien construit. Il y a une thématique, une seule thématique. Il arrive dans certains psaumes qu'on trouve une ou deux, voire trois thématiques. Là, il y a une cohérence. Et ce psaume va servir aussi à la liturgie de Kippour. Hein, c'est-à-dire que la liturgie de Kippour, on commence par énoncer les fautes. Alors, il y a un autre aspect que je voudrais souligner, c'est que ce psaume a un caractère particulier, particulariste, si vous voulez. C'est un individu qui parle. Hein. C'est David, ou bien c'est quelqu'un qui parle au nom de David, ou qui parlerait comme David aurait pu s'exprimer, puisqu'on ne connaît pas l'auteur ultime de ce psaume, hein, David, ou quelqu'un qui écrirait au nom de David. Donc c'est un texte qui s'adresse, par un tutoiement, un jeu qui s'adresse à « tu ». « Tu » étant Dieu ici. Alors qu'à la fin, on se retrouve dans une demande plus collective. Alors, la prière de Kippour va s'inspirer de ce psaume. Simplement, l'énoncé ou la confession est toujours collective. Ça veut dire, par exemple, on dit « Hachab-nou ». Alors, il y a toute une liturgie qui est construite à partir de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qui inaugure les fautes. « Hachab-nou », ça commence par « Aleph ». Donc, nous sommes coupables, Bagad-nou, nous t'avons trahi, Gazal-nou, nous avons volé, etc., etc. Donc, voilà, c'est toujours collectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le principe de co-responsabilité. Hein ? C'est-à-dire, même si quelqu'un se dit, ben, j'ai quand même pas fait tout ça, mais c'est pas grave, tu es responsable de ton frère. C'est-à-dire, collectivement, s'il y a un voleur dans une société, alors peut-être la responsabilité vient aussi que le juste n'est pas assez juste. Et donc, on est sur le même bateau, enfin je prends cette image, souvent les rabbins qui usent aussi de paraboles et d'images, disent c'est comme un homme qui se trouve sur une barque et qui fait un trou sous sa place. Alors, on lui dit, on va tous couler, il dit non mais je fais un trou sous ma place. Alors, on dit oui mais on est tous sur le même bateau. Voilà. Donc il y a d'abord la confession. Et puis après, on la demande de pardon de Dieu. Alors, donc j'ai divisé en trois parties, hein, c'est-à-dire donc la confession de 3 à 7, ensuite donc la demande de pardon, et puis le vœu du psalmiste. Alors, le verset numéro 1, bon, je vais essayer d'aller un petit peu vite, j'ai travaillé ce psaume dans le cadre du Siddique, avec frères et sœurs de Sion, et on avait mis un mois pour le travailler. Voilà, mais on l'avait fait en hébreu d'abord. On avait vraiment travaillé verset par verset. Chaque texte, vous savez, on peut y rester. c'est pas propre au psaume, hein, je veux dire, n'importe quel texte, même des évangiles, on pourrait passer. Voilà. Donc je vais vous proposer un survol, mais j'espère vous dégager les idées fondatrices. Bon, d'abord, nous avons le mode musical, qui est toujours enseigné au début, c'est-à-dire d'abord, c'est un psaume qui est récité en chorale, hein, il y a un chef de chœur, un Ménat Séar, donc sans doute un psaume qui va être récité dans le temple, à l'époque du deuxième temple, psaume des David, Mizmor les David. Alors c'est à la fois le psaume de David, mais d'après la plupart des commentateurs, c'est aussi une modalité musicale. Alors nous ne savons plus en fait chanter les psaumes, on les chante dans le mode Ashkenaz Sépharade, comme on les chante à l'église, quand les moines ou les moniales chantent selon des modes musicaux, mais quel était le mode musical ? On ne savait pas parce que c'était des traditions orales, il n'y avait pas à proprement parler, on n'a pas trouvé de portée, etc. C'était enseigné de maître à élève. Les massoras, les massorettes, c'est-à-dire la création des ta'amim de la cantillation, date du 5e siècle ou début du 6e siècle, en même temps que le Talmud a été clôturée. Bon, c'est possible qu'il y ait des traditions orales qui ont été transmises aux Massorètes au 5e ou 6e siècle, mais on ne sait pas exactement comment chanter. Donc, quand il y a un titre, c'est souvent une modalité de chant. Voilà. Parfois avec instrument de musique, parfois sans instrument de musique. On sait par exemple que le mot « Sela », qu'on ne traduit pas en général, est une pause musicale qui devait servir à une méditation. Ça veut dire que ce qui avait été dit était médité par les... par l'auditoire, par les fidèles qui se trouvaient soit au temple, soit dans une synagogue, soit dans un lieu de prière. Le verset 2 nous situe vraiment le contexte, c'est-à-dire la faute de David. Alors, quand on regarde les traductions, même celle du rabbinat, j'étais obligé de la corriger parce que j'ai voulu rester très proche du texte en hébreu, parce qu'en hébreu, il est dit comme ça... Bevo, elav Nathan Anavi, kasher ba, el bat shava. Et nous avons deux fois le verbe venir. Bevo, lorsqu'il est venu vers lui, Nathan le prophète. Et à la fin, quand il est venu, David, vers Betsabé. Donc il y a deux formes de venu. En plus, bon, sur le plan musical, il y a la répétition du B. Bevo, ou du vet. Bevo, Nathan Anavi, Kasher Ba, El Bat, Sheva. En Israël, il y a des études qui se font uniquement sur les structures, sur les prononciations, sur le côté purement littéraire. Hein, parce qu'il y a un côté littéraire aussi qui pourrait être très très intéressant à étudier. Il y a des spécialistes à l'université en Israël qui sont spécialisés dans la littérature de la Bible, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Voilà. Et alors ici, il y a deux fois le verbe venir. C'est-à-dire Nathan vient vers David parce que David est venu vers Betsabé. Mais dans un cas, c'est venir pour dénoncer la faute, alors que le deuxième venir, c'est venir pour l'union intime. Ce qu'on appelle en hébreu la bia, aller vers la femme. Donc comme si la venue de Nathan vient corriger la faute de... Il est venu avec Betsabé. La correction de la faute, la dénonciation de la faute. Alors, ce psaume, premièrement, ne contient pas une seule fois le tétragramme, c'est-à-dire le Adonai. Alors, je l'ai mis en note d'ailleurs, parce que le mot Adonai, écrit en toutes lettres, est mentionné, mais le tétragramme n'est pas mentionné. Par contre, on trouve tout le temps le terme Elohim, donc on traduit par Dieu, et qui peut se décliner. Elohecha, ton Dieu, Elohai, mon Dieu, Elohenu, notre Dieu. Et alors dans la cohérence de l'interprétation juive, c'est-à-dire avec la tradition orale, c'est que Adonai désigne Dieu dans son attribut de miséricorde, et Elohim désigne Dieu dans son attribut de rigueur. C'est le Dieu de justice, le Dieu qui fonde les lois de la nature d'abord, donc la justice, si on peut dire, du monde, Bereshit bara Elohim et Hashem et Betaretz, alors que Adonai, qui est le nom révélé à Moïse, va présenter Dieu dans son attribut de miséricorde. Et le paradoxe, c'est que pas une seule fois le tétragramme est mentionné, mais en même temps, tout le vocabulaire est un vocabulaire de miséricorde. Comme si, à travers ce psaume, on s'adresse au Dieu de justice pour qu'il... Je prends une image des rabbins, pour qu'il passe de son trône de justice à son trône de miséricorde. Ça aussi, c'est un des thèmes de la liturgie et des enseignements de Rosh Hashanah et Kippour. Notamment, dans ce verset 3, on trouve le terme de « Chen, Chesed et Rachamim ».« Chen », c'est la grâce. Alors, j'ai vu dans différentes traductions, on ne rend pas toujours toutes les nuances de l'hébreu. Des fois, on traduit la miséricorde, tout simplement, mais... Chen, c'est la grâce, c'est la gratuité, c'est le don de la vie. Dieu fait grâce. Chesed, c'est la bonté, la générosité. Rachamim, qu'on traduit en français par la miséricorde au singulier, se dit toujours en hébreu les miséricordes. C'est un pluriel masculin, rachamim. Et la racine, c'est rechem, pour ceux qui font de l'hébreu, c'est l'utérus, la matrice. C'est un débordement matriciel. Comme l'explique notamment André Chouraki dans ses traductions de la Bible. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça fait référence au chapitre 32, 33 et 34 de l'Exode, c'est-à-dire la faute du veau d'or et le pardon de Dieu, qui révèle à Moïse et à travers Moïse au peuple d'Israël les attributs de miséricorde. Nous retrouvons ce thème de Ren, Hanoun, Dieu est gracien, plein de bonté, Rahamim, plein de miséricorde. Et donc, le nom de Dieu, Elohim, est en quelque sorte enchâssé entre la grâce et la bonté. Roneni Elohim Kirasdecha. Donc le Dieu de justice, enfin, Dieu dans son attribut de justice, est enchâssé entre le Ren, la grâce d'un côté, et la miséricorde de l'autre. Parce que le Dieu de justice, c'est aussi le Dieu de miséricorde. Et donc le psalmiste ici demande à Dieu d'effacer. Alors la grande idée révolutionnaire de la Bible d'abord, par rapport au, par exemple, je pense au monde grec, à la tragédie grecque, où on apprend, par exemple en philosophie, que le temps est irréversible, donc la faute sera de toute éternité. La faute ne peut pas être effacée puisque on ne peut pas revenir en arrière. Donc quelqu'un qui aurait commis une faute, quelqu'un qui a brûlé un feu rouge, eh bien de toute éternité, il a brûlé le feu rouge, hein, si on peut dire. Mais l'idée de la Bible, c'est que du point de vue de l'homme, le temps est irréversible, et encore, c'est réversible sur le temps extérieur, mais le temps intérieur, la vie spirituelle, est réversible. Et nous ne sommes pas ici dans la tragédie, que la faute étant commise, on ne peut pas revenir en arrière. Dieu efface, mehe, le verbe maho, qui veut dire effacer, comme une gomme, en quelque sorte, il y aurait une gomme qui efface la faute. Et donc, si la faute est effacée, la faute n'existe plus, et il y a un renouvellement de l'être et de la vie. Donc, le psalmiste connaît cette leçon. Il sait que ce Dieu auquel il s'adresse, c'est pas le Dieu de justice impitoyable qui va punir, c'est le Dieu qui appelle les lois du comportement. Bien sûr, l'homme n'est pas créé sur terre pour faire ce qu'il veut, ce qu'il désire. Mais en même temps, ce Dieu qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, eh bien, pardonne à celui qui revient sincèrement. Nous avons également toutes sortes de termes pour parler de la faute. De la même manière qu'il y a différents termes pour parler de la grâce, de la gratuité, de la bonté, il y a différents termes pour parler de la faute. Il y a le pécha, la faute, il y a le avon, il y a l'iniquité, et il y a le het, qui est traduit par le péché. Le plus connu, c'est le het. Voilà. Alors, ici, le psalmiste, dans la première partie, va comparer la faute, qui est d'ordre, on va dire, spirituel, comme une tache sur un vêtement. C'est tout le thème de la première partie en particulier, hein. C'est-à-dire que fauter, c'est salir un vêtement. Alors on pourrait dire de la même manière que le corps est taché, entaché, ou un vêtement est entaché, eh bien l'âme, la neshama, est aussi entachée. Et comme l'hébreu est toujours, comme vous le savez, enfin ceux qui font un peu d'hébreu, vous savez combien et comment l'hébreu est très attaché au concret. C'est à partir du concret qu'il construit les idées. Un peu, c'est l'échelle de Jacob, hein, ça commence par la terre et puis ça monte vers le ciel. Donc l'hébreu n'est pas un homme de concept, comme un philosophe. C'est d'abord un homme de la terre, un terreux, un glébeux, comme dit Chouraki, Adam, Adama. Mais en même temps, il peut s'élever et construire sa pensée en construisant des concepts, des idées. Donc ici, l'image, c'est l'image d'une tache, soit sur un vêtement, soit sur le corps lui-même, comme quelqu'un qui aurait par exemple un tatouage. A priori, on pourrait plus effacer. Ou alors de l'encre qui serait indélébile sur son corps. Et donc, l'image, c'est l'image d'un lavage. Le verbe kavos en hébreu, kevissa, qui veut dire la lessive en hébreu, mais en hébreu moderne aussi. Hein. Donc, c'est comme si Dieu allait laver un vêtement qui était entaché. Et ensuite, ben, lorsque c'est lavé à grande eau, et puis ben, Dieu a la bonne lessive en quelque sorte, eh bien, il n'y aura plus de tâche. Et donc la faute sera effacée. Alors, l'idée de la tâche sur un vêtement ou sur le corps, on se trouve souvent, par exemple, Jérémie 2, 22, vous regarderez, Zacharie 3, 3. Donc, il y a soit le fait de laver le vêtement, soit le fait d'un lavage corporel. Et on va passer, donc c'est comme ça qu'on passe du concret à l'abstrait, ou si vous voulez, de la réalité concrète à la réalité spirituelle, puisqu'il y a également la notion de purification. Voyez, donc lave-moi à grandes eaux de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Donc ici, c'est un verset, comme la plupart des versets des psaumes de la Bible, mais en particulier des psaumes, sont en deux temps, avec le point virgule, ce qu'on appelle le atnar ou le etnarta au milieu. Hein, d'abord, il y a le lavage du corps, et puis ensuite, purifie-moi de mon péché. Alors, je rappelle, je crois que c'est ici que j'avais dit, que la tahara, la purification, tahor, qui donne tahor, ça renvoie toujours en hébreu à la notion de transparence. C'est la même racine que zohar, la splendeur, ou tsohar, la lucarne que construit Noé sur son bateau pour que la lumière puisse passer. Évidemment, si sur une vitre il y a une tache, ça fait de l'ombre. Donc quand on va effacer la tache, eh bien la lumière va passer et il n'y a pas d'ombre. Hein, voilà. Eh bien, de la même manière, le lavage spirituel, hein, la tahara, permettre de la lumière divine. Donc on devient transparent, il n'y a plus rien qui empêche cette lumière de Dieu de nous traverser. Et en même temps, nous avons ici la vision psychosomatique de l'homme, selon l'anthropologie biblique, qu'on ne peut pas séparer le corps de l'âme, si on peut dire, hein, ou du souffle, voilà, que la vision de l'homme dans la Bible, c'est toujours la totalité de l'être. Hein. C'est pourquoi la médecine juive, qui découle de la lecture de la Bible, c'est toujours de considérer l'homme dans sa totalité. Un des grands maîtres du 12e siècle, Maïmonide, qui dit ben, toute maladie est psychosomatique, c'est-à-dire qu'il y a un manque dans le souffle, dans l'âme, qui se traduit dans le corps est fragile, l'âme est fragile aussi, si le corps est épuisé, l'esprit ne peut plus agir de façon cohérente, etc. Donc il y a toujours un rapport, et on ne peut pas dissocier la partie corporelle de la partie spirituelle avec tous les niveaux, on pourrait dire, de l'âme, la vie végétative, ou l'âme végétative, l'âme instinctive, l'âme imaginative, l'âme intellective et l'âme spirituelle. Voilà. Donc ça reste cohérent de ce point de vue-là, de la vision de l'homme. Et on pourrait dire aussi que c'est l'attitude de celui qui est justement pris sur le fait, ou qui prend conscience de sa faute, que son corps est abattu. Et comme on voit d'ailleurs aussi de Caïn, hein, on dit qu'il était abattu, son visage était à terre. Voilà. C'est-à-dire le corps lui-même porte les traces de sa faille, de sa faiblesse, parce qu'il a pris conscience, ou bien les larmes par exemple, le fait de pleurer. Voilà. Les larmes seraient le lien entre la vie psychique, la vie intérieure et la vie du corps, hein, qui déborde de sa... Ça peut être soit de la joie, soit de la peine. Les larmes, il y a des larmes de joie aussi, mais c'est toujours un lien entre la vie intérieure et la vie extérieure. Alors ensuite, David reconnaît sa faute, hein, donc il va se confesser, il va exprimer la faute devant l'Éternel. Hein. Cette connaissance... Hein, de sa faute, je reconnais mes forfaits et mon péché est sans cesse face à moi. D'ailleurs, cette connaissance, qui est aussi reconnaissance, hein, de sa faute, donc va imprimer son esprit en permanence. C'est intéressant parce que la faute est sans doute un oubli, hein, l'oubli de la loi de Dieu. Dieu dit par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, là, David. Par son désir, il a oublié. Hein. Et donc, pour, en quelque sorte, compenser, réparer cet oubli, ben, il dit que la faute est toujours devant lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer dans l'oubli. Voilà. On est dans une génération, on dit, bon, pourquoi toujours parler, par exemple, des génocides du XXe siècle, voilà. On est dans un nouveau monde. Oui, mais tant que la barbarie à visage humain va continuer de s'exprimer, on ne peut pas oublier, peut-être qu'on pourra oublier le jour où le monde sera transfiguré, mais sinon, il faut garder une vigilance. Donc David dit, ma faute est devant moi tout le temps. Hein? Alors, les commentateurs, enfin, c'est les rabbins qui expliquent, une tradition rabbinique qu'il aurait écrit sur les murs du palais, là où il passait, il y avait toujours « Hatati l'Adonai ». Bon, c'est pas dans le texte, mais enfin les rabbins imaginent que David a placé des signes, en quelque sorte, pour ne pas oublier, hein, pour ne pas revenir à un état un peu euphorique de l'oubli. Hein, quand on avait parlé du nazir, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, que le nazir ne doit pas boire de vin parce qu'il ne doit pas se trouver en situation euphorique de la vie, mais garder un certain état de conscience. Voilà. Mais en même temps, le fait de dire que cette connaissance de la faute, qui est la reconnaissance de la faute, est le signe de la sincérité du repentir. Alors la vie continue, on pourrait dire la vie continue, mais en même temps, on n'oublie pas. Voilà, je pense en particulier à des deuils, voilà, des êtres chers qui nous ont quittés, et en tant que prêtre, en tant que rabbin, souvent on dit, voilà, on n'a pas les mots de consolation, mais voilà, vous allez continuer à vivre maintenant, la vie continue, mais vous allez vivre avec la présence du défunt en vous, voilà. Donc cette présence est toujours là. Alors bien sûr, on pourrait dire, idéalement, c'est qu'on a la présence de Dieu tout le temps. Hein? Dans certaines synagogues, pas ici, mais dans certaines synagogues, il est dit, lorsqu'il y a une formule, on a choisi d'autres versets, mais par exemple, « Sache devant qui tu te trouves, devant le roi des rois, le saint béni soit-il. » Voilà, il y a différentes formulations pour prendre conscience. Si on ne peut pas le graver dans son cœur, alors au moins ce soit gravé à l'extérieur pour nous le rappeler devant les yeux. Donc David est le repentant. Il veut se rappeler, il ne veut pas oublier. Ça veut dire qu'il veut se rappeler que l'homme est faillible. Et donc il ressemble ainsi à son ancêtre Judas. Judas qui lui aussi a reconnu sa faute avec Tamar. Et puis il a reconnu sa faute en se faisant le garant de Benjamin, quand Benjamin était accusé faussement de vol. Là, je fais référence au récit de la Genèse que vous connaissez. Donc David est un peu dans la continuité de Judas, c'est la lignée davidique ou judéenne. Il va représenter le repentant sincère. Et c'est pourquoi il demande le pardon de Dieu, la miséricorde du ciel. Parce que c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui efface la faute. C'est Dieu qui est le maître de l'espace et du temps, qui peut effacer ce qui a été commis à la condition de la sincérité. Alors verset 6, c'est assez étonnant parce qu'il dit « Car contre toi seul j'ai fauté, hein, lecha leva decha en hébreu, pour toi, envers toi seulement j'ai fauté ». Alors on se dit, mais quand même, il a quand même envoyé Uri au front, voilà, il a pris sa femme. Mais toute faute, du point de vue de la Bible, toute faute est une faute contre Dieu. Parce qu'au fond, c'est Dieu qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la grande question philosophique. Est-ce que le bien et le mal sont définis de l'intérieur de l'homme, ou est-ce que le bien et le mal sont définis de l'extérieur? Voilà. Dans une conscience athée, on va dire, c'est l'homme qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il y aura peut-être un côté arbitraire de la loi. Il peut avoir convergence entre la loi humaine, la loi naturelle, si on peut dire, et la loi divine, mais pas forcément. On peut imaginer, comme ça existait, des systèmes législatifs qui sont légaux, mais qui ne sont pas moraux, par exemple. Voilà. Mais du point de vue de la foi, du point de vue du croyant biblique, toute faute est une faute contre Dieu. Mais quand on faute contre son prochain, c'est une double faute. Parce qu'on faute contre le prochain et on faute contre Dieu qui a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais quand on faute contre Dieu, par exemple, une faute religieuse, bon, dans le judaïsme, par exemple, quelqu'un qui ne mange pas kasher ou qui ne fait pas shabbat, qui n'agresse pas son prochain par le fait qu'il mange telle ou telle nourriture, c'est une faute contre Dieu, du point de vue de la cohérence biblique, mais la faute vis-à-vis du prochain, c'est une faute et vis-à-vis du prochain et vis-à-vis de Dieu. Donc David reconnaît au fond que c'est Dieu qui définit ce qui est bien, ce qui est mal, alors que pendant le temps de sa faute, bah, il considérait que c'était sa satisfaction qui était sa loi, quoi. Voilà. C'est moi qui... L'État, c'est moi. Voilà. Et donc, la loi, c'est moi aussi. Et donc, c'est Dieu qui définit le bien et le mal à travers la révélation et à travers la parole du prophète Nathan. Voilà, qui... D'ailleurs, Nathan, ça veut dire donner, Yonatan, c'est le diminutif Yonatan. Dieu donne, ben, il donne la vie, mais aussi il a donné la loi. Il dit, voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Hein? Voilà. Et donc, c'est intéressant. Enfin, je fais une petite digression, mais parce qu'on est, ensemble entre juifs et chrétiens. C'est, je me pose la question, justement, de Jésus quand il dit qui sont mes frères. Et que, justement, Jésus, lui aussi, il ne se pose pas d'un point de vue de la nature. C'est-à-dire que la question de Jésus, c'est pas de savoir biologiquement qui est ma mère, qui est mon frère, qui est son mes sœurs, mais plutôt celui qui fait la volonté de mon Père. Donc on voit d'une certaine manière qu'il y a aussi cette idée, qui reste cohérente avec la Bible, que c'est la référence à Dieu. C'est Dieu qui définit, d'une certaine manière, les relations, voilà, parce que c'est le Père, c'est notre Père à tous. Voilà. Donc... En même temps, David, donc à la fin, reconnaît que la justice de Dieu, hein, ça veut dire tu seras juste dans ta parole ou dans ton verdict, tu seras droit dans ton jugement, c'est-à-dire si tu me condamnes, j'accepte, je ne vais pas me rebeller contre le décret de Dieu. Hein. Tu es tzaddik en hébreu. Ouais, de temps en temps, j'ai mis les mots en hébreu parce qu'ils peuvent réapparaître dans d'autres études. Voilà. Il reconnaît la justice de Dieu, il reconnaît la droiture du jugement. Dieu, c'est le chauffet. Chauffet Kol Haaretz, le juge de toute la terre, aussi un thème de Rosh Hashanah et de Kippour. Et donc il serait prêt à accepter, bien sûr, le décret de Dieu, si Dieu le condamne, et il va ajouter un argument supplémentaire. Alors est-ce qu'il cherche, peut-être il cherche quand même une circonstance atténuante, et c'est le verset 7. Alors certes, hen, alors on peut traduire certes, mais des fois ça peut être aussi en vérité. Dans le sens d'une affirmation. Hein. Alors, j'ai été enfanté dans l'iniquité, voilà, je traduis mot à mot, hein, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Hein, voilà. Alors, en hébreu, ce verset 7, donc, cholal, qui est un verbe qui n'est pas très fréquent, c'est-à-dire enfanté, et ma mère m'a conçu avec le verbe hamam qui vient de la racine ham qui veut dire chaud, ça veut dire la chaleur, la pulsion. Hein. Bon, c'est-à-dire que tout acte intime, tout acte sexuel traduit un désir de jouissance. Hein. Et donc, la conception, c'est d'abord la rencontre de deux désirs. S'il n'y a pas le désir de l'homme et de la femme d'aller l'un vers l'autre, ben, il n'y a pas de relation possible. Bien sûr, il peut y avoir un excès, comme on voit avec David, un violeur, par exemple, qui lui a un excès voilà, de désir. On peut toujours expliquer, c'est de la testostérone, ou je ne sais pas. Mais il n'y a pas de relation s'il n'y a pas un désir. Et ce désir, hein, ben, il est transmis. En fait, nous sommes tous des êtres de désir. Et si le désir n'est pas maîtrisé, alors il se traduit par un désir de consommation du fruit interdit. Je crois que vous l'avez dit, Père Michel, la dernière fois, justement. C'est du même ordre, hein, c'est-à-dire que le fruit est interdit. Ça peut être un fruit, une pomme, même le texte ne dit pas une pomme, mais admettons une pomme, ou que ça soit ça peut être la femme de mon voisin, ça peut être la voiture de mon voisin, ça peut être le... Peu importe. C'est « je vais au-delà hein, de ce qui m'est interdit et ». Et donc, il reconnaît, David, ici, que nous sommes des êtres de désir. Et donc, ce désir des parents se transmet, et si ce désir n'est pas géré, ben il déborde, et David dit, ben voilà, c'est la faute, j'étais enfanté dans la faute, dans l'iniquité, hein, pour signifier ce débordement du désir. Alors ça, c'est on pourrait dire la fin de la première partie, hein. Et puis, là, nous avons un verset en contrepoint, le verset 8, qui vient en contrepoint du verset 7, qui dit que le désir de Dieu, c'est la vérité des reins, batuchot. Alors, les reins, c'est le lieu des désirs, mais c'est aussi le lieu... Enfin, selon la Bible, hein, selon l'anthropologie biblique, hein, c'est en même temps le lieu de la conscience morale. En fait, il y a en l'homme, il y a cette conscience morale, cette chorma, cette sagesse, cet influx de Dieu, qui fait aussi que Dieu désire la vérité des reins, et dans mon fort intérieur, tu m'enseignes la sagesse. Cet être qui est à la fois l'homme pétri de désir, porte aussi en lui la dimension divine. On pourrait dire que le Adam, tout homme, est un mélange, c'est d'ailleurs ce que dit la Bible dans le premier chapitre, ou le deuxième chapitre, c'est à la fois un mélange de la terre, donc l'attirance vers la terre, Adama, donc toutes les pulsions qui nous amènent vers le bas, l'animalité, et puis le souffle de Dieu qui nous élève. Je fais référence ici parce que quand je peux citer mes maîtres, je cite. Bon, j'avais suivi quelques cours du regretté professeur Henri Baruch. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Henri Baruch, qui était un grand psychanalyste, un grand psychiatre, qui était directeur de l'asile Sainte-Anne, et qui a écrit beaucoup de livres. D'un point de vue scientifique, c'est une approche donc psychologique, psychiatrique. Et en même temps, qui était un homme de foi, d'une grande foi. Voilà, comme ces grands hommes du 19e siècle, début du 20e siècle, d'une rectitude, vous savez. Il est encore plus petit que moi, mais alors il avait une force de caractère tout à fait remarquable. Il était passé une fois dans une émission de Pivot. Voilà. Et il a développé, j'aimais beaucoup ses enseignements, parce que vraiment, il était ce qu'il disait, un homme entier. Il raconte d'ailleurs comment il a réintroduit, parce qu'il a vécu caché pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il dit que à Sainte-Anne, il y avait beaucoup de délations, il y avait des clans, on accusait les uns les autres, il y avait ceux qui cherchaient les profits. Il est imprégné des enseignements de la Bible, justice, justice, tu poursuivras. Il a appliqué tous les principes de la Bible. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la médisance, alors il fait venir les gens. C'est vrai que tu as dit ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Donc il renvoie les gens à leur vérité. Il raconte dans un livre, je ne sais pas si on peut le trouver encore, Des hommes comme nous, où il dit que on est tous fous ou personne n'est fou. On peut tous être soignés, même de l'antisémitisme, il dit. Voilà. On peut tous être soignés avec l'amour, avec la patience. Et alors il développe cette idée qu'en fait il y a deux instincts. Il y a l'instinct inférieur, qui serait justement du côté du désir, du fantasme, etc. Mais il y a aussi l'instinct supérieur. Et cet instinct supérieur, c'est la conscience morale. Qu'est-ce qui fait que l'homme qui a fauté se réveille, ou est réveillé, ou peut être réveillé, à des aspirations spirituelles pour revenir jusqu'à Dieu. En quelque sorte, l'homme est pétri de ces deux éléments, qui fait que nous sommes Adam, voilà. Et c'est cette vérité divine qui est enfouie en nous-mêmes que l'Éternel éveille par la teshuva, par le repentir ou la conversion à Dieu. C'est cette sagesse, comme ça, donc, tous les commentateurs juifs ici reviennent sur ce thème, cette chorma, cette sagesse intérieure qui est en nous-mêmes, eh bien, c'est cette sagesse de Dieu qui n'est jamais vraiment étouffée, comme les chassidim parlent du point nucléaire de l'homme, qui est cette part de divinité qui reste toujours présente et qui pourrait être ravivée en soufflant sur la braise. Et à la suite de ça, donc il va revenir sur des rituels qui étaient vraiment des rituels du temple, hein, qu'on trouve notamment dans le livre du Lévitique, les purifications avec l'hysope. Alors les purifications avec l'hysope, donc notamment dans Lévitique au chapitre 14, on en parle, c'est pour purifier d'une maladie, on traduit la lépre biblique, Tsaraat, en fait c'est pas la lèpre, donc il n'y a pas d'équivalent, c'est Tsaraat, et qui serait, d'après la tradition, la faute de médisance, comme Myriam, la sœur de Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 19, a parlé contre Moïse, et elle se retrouve recouverte de boutons blancs pendant 7 jours. Voilà. Et donc, il y avait un rituel avec de l'hysope, hein, qui est un arbre odoriférant, voilà, et qui peut faire référence, par exemple, à Ézéchiel. Enfin, Ézéchiel ferait référence en 36-25. « Je verserai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos impuretés. » Et donc, on retrouve dans cette deuxième partie des références à la purification, le nettoyage du vêtement, par exemple, plus blanc que la neige. Voilà. Coluche, en son temps, nous a fait rire avec « plus blanc que blanc », mais ici, « plus blanc que la neige ». La neige, avec ce qu'elle a de pur, c'est pas un tapis de neige, vous voyez, on n'a pas envie de marcher dessus, on voit que ça reste toujours comme ça. Et « plus blanc que la neige », ça veut dire que Dieu purifie de façon la plus totale. Hein, au début du livre d'Ésaïe, enfin dans Ésaïe 1, verset 18, même si vos fautes sont cramoisies, elles deviendront blanches comme la neige. Voilà, Sheleg, la neige. Et David donc demande ce pardon, hein, afin de vivre pleinement la joie. Alors en hébreu, il y a plusieurs termes pour dire la joie, notamment il y a deux termes, il y a Sasson et Simcha, qu'on utilise lors du mariage pour la bénédiction des mariés. Sasson, c'est la joie extérieure, et Simcha, c'est la joie intérieure. L'exubérance, par exemple, quand on danse, voilà. Et le rabbi va danser, Rabbi Jacob, il va danser, ouais, ça ce serait plutôt Sasson. Et Simcha, c'est la joie intérieure que l'on ressent. Hein. Et même le squelette, hein, même les os, hein, les ossements, hein, du repentant retrouvent le bonheur. Hein, parce que, justement, la faute, c'est comme une brisure des os, comme quelqu'un qui a une blessure, une fêlure aux côtes. Enfin, si vous avez connu ça, c'est extrêmement douloureux, ou bien être le pied dans le plâtre, etc. Donc, comme si le corps est brisé, et la réparation est totale. Hein. Alors, le pardon de Dieu, c'est une guérison. C'est la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme. Et donc, le psalmiste passe à un degré supérieur. Car Dieu peut pardonner les fautes, donc le grand miracle de Dieu consiste à effacer donc ce passé, hein, et de renouveler par le pardon une nouvelle création. Et ça, le verset central, hein, c'est que Dieu crée. Le verbe bara, il est très rare, le verbe bara. On le trouve au début de la Genèse. C'est un verbe assez rare, et qui parle vraiment de la création presque nihilo, c'est-à-dire la création à partir de rien, comme si le repentir crée une nouvelle créature. C'est mon corps, c'est ma mémoire, c'est moi, je me reconnais, et en même temps, je suis un être totalement nouveau. Et ce renouvellement de l'être, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître dans mon sein un esprit droit. Ruach Nechona, un esprit droit, un nouvel esprit, hein, un nouveau souffle. Donc il y a ici la notion de Beria, une création nouvelle, et le Ridouche, Hadesh, un renouvellement. Donc la conclusion de ce passage, hein, c'est de demander à Dieu ce pardon afin d'être dans la joie, de la joie de Dieu, d'avoir reçu ce pardon plein et entier et total et sans retour. Et donc la troisième partie, je vais terminer sur la troisième partie. Voilà la conséquence de ce pardon. Alors dans certaines traductions, vous avez des subjonctifs Je rappelle que l'hébreu ne connaît pas le subjonctif ou le conditionnel. Il n'y a que deux formes. Il y a ce qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. J'ai même dit par rapport au Notre Père, c'est pas que ton. Enfin, en hébreu, on ne pourrait pas dire que ton nom soit sanctifié. Mais on dit ton nom sera sanctifié. Parce qu'il n'y a pas d'impératif, ce n'est pas un vœu. C'est la vérité de l'homme et de la femme de foi. Qui dit un jour, ton nom sera sanctifié, ton règne viendra. Ce n'est pas que ton règne vienne. Même si individuellement, ça peut être exprimé comme un vœu, comme une espérance. Mais du point de vue de la grammaire hébraïque, ben, y a que ce qui est déjà fait et ce qui sera fait. Donc c'est pourquoi toutes les traductions, enfin, j'ai supprimé les subjonctifs. Ils se réjouiront, et pas que mes os se réjouissent, mais ils se réjouiront les os, parce que si Dieu pardonne, il y aura conséquemment la joie. Et cette joie, ben, elle est communicative. Il y a deux types de joie, comme en chaque expérience humaine, il y en a toujours deux. Il y a l'expérience individuelle et égoïste, donc qui procéderait de notre mauvais penchant, satisfaire notre désir de façon égoïste. Et puis, la deuxième dimension, c'est le partage, c'est-à-dire en amour. Alors, ou bien c'est une joie égoïste, ça on connaît, notre société, c'est une société qui vend de la joie globalement égoïstement, voilà. Et si on a les moyens de se payer telle ou telle jouissance ou réjouissance. Hein. Et puis, la joie authentique, la joie qui procède de Dieu, c'est celle de partager la joie. C'est-à-dire, je voudrais enseigner tes voies, hein, tes chemins aux pécheurs, afin que les coupables reviennent à toi. La conséquence, c'est cet altruisme. Autant la faute de David, c'est justement son égoïsme, hein, satisfaire son désir, oublier la loi de Dieu, hein, envoyer le mari au front, lui prendre la femme, etc. Autant, maintenant, il devient un être lumineux et il veut aider ceux qui sont dans la faute et enseigner les voies de Dieu en disant Dieu qui pardonne, pour redonner cette espérance. Parce qu'il y a aussi la désespérance de celui qui dit « Oui, mais si j'ai fauté une fois, deux fois, trois fois, ben ça y est, mon Dieu, il ne me pardonnera plus. » Voilà. Donc, il se veut ici enseignant. Donc, le psalmiste dit, la traduction de cette joie, c'est « enseigner ». Et il termine donc par cette demande, hein, d'être préservé, hein, le Dieu du salut, le Dieu de la délivrance. Hein. Ici, bien, c'est la délivrance de la faute. En effet, dans la délivrance, il y a plusieurs dimensions. Il y a la délivrance physique, Dieu qui délivre Israël du pays d'Égypte, Dieu qui délivre d'une maladie, Dieu qui délivre d'une prison, et aussi Dieu qui délivre de la faute. Et à ce moment-là, alors l'autre verset qui est important pour la tradition juive en particulier, c'est le verset 17. Pourquoi ? Parce que le verset 17 a été placé par les rabbins, les maîtres de la synagogue, en introduction de la prière par excellence, qu'on appelle la Amida, qui est la prière restée debout à voix basse. Si vous assistez, d'ailleurs vous avez peut-être vu même des gens qui prient devant le mur, les pieds joints, les chassidim se balancent, voilà, comme ça, hein, et comme cette danse intérieure, mais sinon on est debout, pieds joints, et avant de réciter cette prière, qui est une prière composée par les rabbins, c'est pas une prière d'origine biblique comme les psaumes, est inauguré par ce verset en hébreu: Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatera. Donc Seigneur ou mon Seigneur, Adonai, donc en toutes lettres ici, ouvre mes lèvres et ma bouche racontera tes louanges. C'est-à-dire, ce que nous disons dans la prière juive, en citant ce verset, c'est que je ne peux prier Dieu que parce que Dieu me donne la possibilité de le prier. C'est-à-dire, le fait de prier, le fait de dire les mots, le fait de les penser, de les exprimer, même si c'est une prière à voix basse, donc on fait entendre aux oreilles ce qui sort de la bouche, mais en murmure. C'est-à-dire qu'on n'a pas à imposer à son voisin la manière dont je me relie à Dieu. Ce serait inconvenant de dire « écoute ma manière de me relier à Dieu ». Ça, c'est mon affaire privée. Donc chacun prie individuellement à voix basse, sa prière à son rythme. Il y en a qui terminent avant, il y en a qui terminent après, il y en a qui ont plus de ferveur, moins de ferveur, etc. Ça, c'est le rapport individuel. Le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà, chaque patriarche a sa relation à Dieu. En même temps, c'est notre Dieu, Elohénou, et c'est Adonai. Hein, c'est pour ça qu'après, dans les synagogues, on répète à voix haute le texte qui est dit à voix basse pour reformer la communauté. Car nous sommes un ensemble d'individualités qu'on ne va pas supprimer, et en même temps on retrouve le collectif. On sait que ces grandes questions qui sont des questions de philosophie politique, ça veut dire est-ce que l'individu est plus important que le groupe, ou le groupe plus important que l'individu, il y a des sociétés individualistes, des sociétés collectivistes, et la Bible, eh ben, elle essaye de poser un équilibre. Quand il y a trop d'individualisme, on revient sur le principe de responsabilité collective, mais quand il y a trop de collectivisme où l'individu pourrait être totalement annihilé, comme les systèmes de dictature, alors on revient vers l'individu. Donc il y a une sorte de balancement entre l'individu et le collectif. Et donc ce verset qui dit « Mon Dieu, c'est une manière de se confier à Dieu ». Voilà. La faute, c'est toujours... en quelque sorte, se prendre pour Dieu. Voilà. Et maintenant, je m'en remets à toi. C'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me donnes les mots, c'est toi qui ouvres ma bouche. Ça veut dire les muscles de mon visage, ils sont exprimés par toi. Il y a des lectures aussi un peu plus poussées, enfin un peu plus modernes. Par exemple, on pense... Alors, il y a la foi du charbonnier, comme on dit, hein, c'est-à-dire, là, il a cette foi en Dieu, merci mon Dieu. Et puis, il peut avoir une foi aussi qui est augmentée du degré de connaissance. Par exemple, si je ne connais pas la physiologie, ben, je bois, et puis voilà, ce qui va se passer dans mon corps avec l'eau que j'ai bu, ça va passer dans mon corps, et il y aura le tri qui sera fait entre ce que le corps va garder et ce qui va être jeté. Mais si, par exemple, j'ai des connaissances en physiologie, je me dirais, comme tes œuvres sont grandes, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe avec une goutte d'eau qui tombe dans mon corps? Mais c'est extraordinaire. Toute la machine qui est en place ici, c'est-à-dire comment Dieu a créé l'être. Donc c'est vrai que d'un côté il y a la foi du charbonnier, des fois on dit, voilà, on a la foi en Dieu, on n'a pas besoin de preuves. Moi j'ai beaucoup aimé le film de Bernadette Soubirous. Vous savez, ce film des années 56. Moi, j'aime bien les films des années 50, 60. Voilà. Et alors, au début du film, il dit, parce que l'auteur reste ambigu, voilà, il y a l'apparition, hein, à Lourdes, et au début, il dit, de toute façon, les croyants n'ont besoin d'aucune preuve pour croire, et ceux qui ne croient pas, on leur donnera toujours des preuves, ils ne croiront pas. Voilà. Donc, il y a la foi du charbonnier, et puis il y a aussi la foi de celui qui augmente sa foi par les connaissances. Et ça reste tout à fait cohérent avec la Bible, puisque on pourrait d'une certaine manière dire que, en particulier le psalmiste, hein, se réfère à la nature. Il voit comme l'œuvre de Dieu est grande, et cette foi grandit selon le degré de connaissance. Donc il n'y aurait pas ici, comme on a voulu au XIXe siècle opposer par exemple le scientisme, le positivisme à la religion, vous voyez, le curé et le maître d'école, voilà, ou Don Camillo est le maire du village, hein. Mais au contraire, il y aurait une correspondance entre foi et raison, et savoir, et connaissance, et les connaissances, ça grandirait encore davantage notre foi en Dieu, en voyant les merveilles de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Voilà, je terminerai, il y aura peut-être encore à dire, mais bon, je vais terminer, que ce psaume... Je vais quand même terminer par la conclusion du psalmiste, avant de passer au verset 20, c'est qu'au fond, l'essentiel pour Dieu, c'est le cœur. Alors c'est vraiment une idée fondatrice, hein, du livre des psaumes, à savoir que Dieu ne souhaite pas le sacrifice. Alors il y a différents termes, il y a les rola, il y a les evahim, il y a les différents types de sacrifices qui sont mentionnés dans le livre de Lévitique. Et le psalmiste dit, Dieu n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin des sacrifices. Ce que Dieu veut, il le dit clairement, le sacrifice à Dieu, ça c'est le rabbinat qui a ajouté, mais ça reste cohérent, le sacrifice agréable ou agréé à Dieu, c'est un esprit contrit, Lev Nishbar Vinitke, Elohim Lotivze. Un cœur brisé et abattu, Dieu ne déteigne pas. C'est-à-dire, en fait, c'est le cœur, c'est l'homme lui-même qui, par son repentir et sa prise de conscience sincère, s'offre d'une certaine manière en sacrifice de Dieu, et c'est cela que Dieu demande. Parce que tous les sacrifices pourront être offerts s'il n'y a pas la contrition, s'il n'y a pas la reconnaissance de la faute, on n'achète pas Dieu. Alors, comment ensuite... Alors d'abord, c'est intéressant parce que souvent les livres postérieurs à la Bible, enfin les livres postérieurs à la Torah, pardon, sont des fois des éclairages de la Torah. C'est pourquoi dans la synagogue, après la lecture de la paracha, c'est-à-dire du rouleau de la Torah qui est le Pentateuch, hein, on lit la Haftara. Alors, il y a des raisons historiques à cette lecture du livre des prophètes, ça s'est établi autour du 2e siècle avant l'ère chrétienne, mais ça a été maintenu. C'est-à-dire à partir du 2e siècle, on instaure la lecture de la Haftara, donc du texte des prophètes, après le texte de la Torah. Et dans les synagogues, à l'époque de Ezra et après, on ajoute à la lecture de la Haftara le commentaire, l'homélie du rabbin. Enfin, il n'y avait pas encore peut-être forcément le titre de rabbin, mais le savant qui enseigne. Donc il y a la Torah, les prophètes et l'homélie. L'idée, c'est comment on va actualiser ce qui a été dit à une certaine époque, pour une telle génération, avec sa mémoire, etc. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce psaume, qui est plus tardif que le texte biblique, vient nous éclairer sur le sens des sacrifices et de ce livre dont beaucoup de passages sont difficiles, très techniques, notamment les premiers chapitres du Lévitique. Hein. C'est pas un roman, ça, à lire. Hein. On se fatigue vite. Voilà. Alors, peut-être là, il y a l'esprit de ce rituel. C'est qu'au fond, ce sacrifice animal n'a de sens que si il s'accompagne de la reconnaissance de la faute ou l'expression d'un sentiment de piété sincère à l'égard de l'Éternel. Mais qu'on n'achète pas le bon Dieu avec des sacrifices. Et c'est pourquoi les prophètes vont s'en prendre au peuple d'Israël en disant « Vous pouvez fermer la boutique, hein, si c'est j'en ai assez de vos sacrifices parce que vous ne pratiquez pas la justice, le droit du pauvre, etc. » Donc, ça ne sert à rien. Il y a une cohérence dans l'ensemble du message biblique, de la Torah et des prophètes. Et si on ne respecte pas cet esprit profond qui est mentionné ici, eh bien, le sacrifice n'a aucun sens. Alors, il se trouve que nous sommes dans une communauté libérale, et c'est vrai que le judaïsme libéral, tout en se revendiquant du judaïsme, se revendique aussi d'une certaine modernité ou adaptation. Par exemple, prier pour la reconstruction du troisième temple, pourquoi pas, mais ça voudrait dire surtout la paix à Jérusalem. Ça ne voudrait pas dire un retour au rituel sacrificiel, mais plutôt un lieu de la connaissance de Dieu, l'enseignement. C'est des débats, bien sûr, c'est très théorique tout ça, parce que on ne verra pas de troisième temple d'ici peu. Mais le judaïsme libéral s'est beaucoup inspiré de ces textes. En disant, vous voyez, il y a une orthodoxie, une orthopraxie pure et dure. Voilà, il y a une spiritualité dans Améa Shearim, certainement, même ceux qui portent des papillotes, etc. Il y a une grande spiritualité. Mais aussi, on peut penser, adapter le judaïsme à partir de nos textes fondateurs. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit, par exemple, en synagogue libérale, les hommes et les femmes prient ensemble. Alors, pour la conclusion, c'est que, bien que l'auteur affirme que le véritable sacrifice, c'est le cœur de Dieu, le cœur offert à Dieu, il n'en reste pas moins solidaire de cette nostalgie. Hein ? Parce que, sans doute, ce texte est rédigé dans sa forme définitive pendant l'exil de Babylone, et c'est pendant cet exil que s'éveille la nostalgie de Jérusalem. Tant que les Hébreux vivaient sur la terre, les ancêtres, ils pouvaient courir à droite à gauche derrière le Baal, derrière telle ou telle divinité. Et on pourrait dire le traumatisme de la destruction du premier temple en 586 a eu pour effet bénéfique pour les Judéens de leur donner conscience du message des prophètes. Donc il y a cette nostalgie du retour à Jérusalem, voire, dans la logique de l'auteur, d'offrir les sacrifices, mais à condition que ces sacrifices soient offerts dans l'esprit des versets précédents. Parce que si on recommence à pratiquer des sacrifices, mais sans ce don du cœur, c'est, comme dit le Talmud, le Seigneur, enfin le Saint béni soit-il, désire le cœur, s'il n'y a pas ce cœur, eh bien, les sacrifices n'auront aucun sens. Voilà. Donc, cette lecture un peu voilà, en diagonale, mais je pense avoir dit l'essentiel, et je conclurai en disant que c'est un psaume d'une grande espérance. Et que dans la Bible, il y a beaucoup de drames, mais jamais de tragédies. Même quand on arrive à des situations ultimes de catastrophes, comme par exemple l'exil, la destruction du temple, il reste toujours cette espérance du retour vers Dieu. C'est que le dernier mot de la Bible, le dernier mot du livre des Chroniques, c'est « Vayahal », il est monté. On peut dire aussi, c'est-à-dire c'est une invitation toujours à l'élévation. Voilà, je vous remercie.